Cuba est dans une situation extrêmement compliquée depuis des années, des décennies même. Mais après, est-ce que Donald Trump va étrangler Cuba comme c'est annoncé? Je pense fortement que oui, parce qu'il n'a aucune limite.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour apprendre en s'amusant et parfois aussi s'évader. Car aujourd'hui, nous allons découvrir ce pays fascinant qui, pour beaucoup d'entre nous qui n'ont pas eu la chance d'y aller, se résume à de gros clichés comme lors de cette soirée Cuban Fever qu'avait organisée notre rédacteur en chef l'été dernier. Pour l'occasion, l'appartement avait été astucieusement décoré de palmiers en plastique très réaliste. L'enceinte Bose diffusait une playlist Buena Vista Social Club et Cyril, déguisé en Fidel Castro, grâce à un postiche acheté chez Action, vous accueillez à l'entrée d'un joyeux Benvenido, Mikasa y su casa, en vous tendant un gros cigare. Voilà tout ce que je sais à ce jour de Cuba, c'est dire s'il y avait urgence à consacrer une émission à ce pays qui a toujours représenté un enjeu stratégique pour les États-Unis qui y sont souvent intervenus. On a tous en mémoire, souvenir de nos cours d'histoire au lycée, la période de la guerre froide et notamment l'épisode du débarquement de la baie des cochons. Cette tentative d'invasion militaire d'exilés cubains soutenue par les États-Unis et la CIA qui avait envoyé son meilleur agent, Cyril the Courier. Le président Kennedy en personne l'avait appelé.
J'ai besoin de ton aide pour écraser la menace rouge.
Les communistes, hein ?
Of course, lui avait répondu. La suite, on la connaît. Cyril, déçu de ne pas trouver de cochon dans la baie des cochons, avait boudé. Refusant de soutenir les exilés cubains si on ne lui trouvait pas à minima du saucisson, le débarquement avait été un fiasco. Bon, aujourd'hui, le temps a passé. C'est la vraie histoire, mais moi je révèle les vraies coulisses de l'histoire. Fidel Castro est mort depuis longtemps, pourtant Cuba est toujours communiste, toujours isolé. Et après le Venezuela, beaucoup se demandent si Donald Trump ne va pas tenter de faire tomber à son tour le régime cubain. Qu'en est-il vraiment? À quoi ressemble surtout Cuba aujourd'hui? Spoiler, il est certainement loin de l'aperçu qu'on en avait eu à la soirée Cuban Fever de Cyril. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Alberto Guadalupe Miranda.
Bonjour.
Merci
bonjour
d'être avec nous sur Inter cet après-midi, Alberto. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'association France pour la démocratie à Cuba. Vous êtes vous-même franco-cubain, vous êtes né, vous avez grandi à Cuba. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 12 ans. Une partie de votre famille habite encore sur place. D'ailleurs, vous avez des nouvelles, c'est facile de communiquer?
Oui, alors ça dépend, ça va au rythme aussi des coupures de courant, mais oui, on arrive quand même à avoir des nouvelles et en effet, elles sont pas énormes. Quoi.
C'est à quelle fréquence que vous avez des nouvelles?
Non, on arrive à avoir de la communication. Par contre, c'est vrai qu'elles sont pas très bonnes les nouvelles.
Les dernières. La pression américaine sur Cuba s'est accentuée, on l'a dit ces dernières semaines, surtout après l'opération militaire contre Nicolas Maduro au Venezuela. Cuba dépendait en grande partie du pétrole vénézuélien. Le régime de La Havane est sur le point de chuter, à quoi ressemble la vie actuellement sur place et qui, le cas échéant, pour remplacer le pouvoir castriste? Vous allez tout nous raconter, juste le temps de vous présenter mes guerrilleros à moi. Deux journalistes dont l'engagement pour l'indépendance de Cuba se résume au fait qu'à l'adolescence, entre deux posters de Linkin Park et Ricky Martin, ils avaient eu au-dessus de leur lit une affiche de Che Guevara. Manon, qui aimait aussi beaucoup Billy Crawford, a même traversé une grosse période anticapitaliste où elle est allée jusqu'à écouter Nathalie Cardone, qu'on entend ici.
Vous pouvez
l'assumer, Manon. Assumez-le. Bah, c'était moi alors.
Oui.
C'est dire si on a affaire à d'authentiques révolutionnaires. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour à tous. Moi, j'avais un petit t-shirt avec le Che dessus.
Moi, j'avais brodé un truc sur mon sac qui se passe.
Ah oui, il y avait ça aussi. Effectivement.
Un portrait d'Alain Madelin.
Non, du Che, Cyril, du Che.
Ah, pardon. Voilà. Moi, c'est peut-être le niveau au-dessus, carrément.
Ah, ouais. Moi, j'avais le A de anarchie.
Quelle époque. Si vous disposez de photos, de clichés de cette
question.
Époque argentique, évidemment, vous nous envoyez
tout.
Je me ferai un plaisir de les diffuser sur mon Insta. Ma chère Manon,
oui,
qui préférait d'ailleurs le Cuba Libre, évidemment, à tous les autres cocktails, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Un Cuba Libre, s'il vous plaît.
Oui, un Cuba Libre, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans un bar à cocktails. Il est temps que j'y retourne.
On va t'y emmener, vraiment, un Cuba Libre. Bon, bref, je vais vous parler d'une spécialité cubaine. Pas du rhum. Sachez que j'aime pas le rhum. Ça me monte très, très vite à la tête.
Je note,
quasiment jamais. Ça me rend, bref. Non, une spécialité qui fume et dont l'odeur est assez détestable.
Ça dépend de quel côté du barreau de chaise on se place. Face à vous, Alberto, il est plus circonspect quant au régime cubain, car si son oncle milliardaire lui a donné le bon goût des cigares, il se méfie en revanche du communisme, son tonton lui ayant maintes fois expliqué la différence entre la démocratie américaine et les dictatures.
Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà.
Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature.
Quentin, chaque matin, vos idées parfois arrêtées se heurtent à la pluralité des points de vue des passants que vous interpellez sur notre thème du jour.
Voilà, alors, c'est beaucoup dire, ça reste un micro-trottoir.
Non, j'essaie de le vendre, justement, vous savez, peut-être qu'effectivement, vous aurez besoin de présenter votre CV ailleurs un jour, et j'essaie de vendre ça.
Qui vous dit
ça.
Qu'il n'est pas déjà parti?
C'est possible. Cuba, on en pense quoi dans la rue?
Cuba dans la rue, c'est avant tout des images de vacances, des ruelles aux couleurs chaudes, des vieilles Cadillacs, de la musique, des cigares, vous l'avez dit. Mais cette carte postale, est-ce qu'elle modifie notre regard sur le pays et sur le régime? Je vous ai posé la question dans la rue, vos réponses dans la prochaine demi-heure.
Merci Quentin. Vers 16h30, il sera temps d'ouvrir notre Bible du voyage, l'ouvrage Adios les Bibarros de Pierre Courade au chapitre Cuba, bien sûr, puisque je vous proposerai un Zoom Zoom Test spécial anecdote cubaine et le vainqueur remportera aujourd'hui un Cuba Libre que je préparerai moi-même. Ça sera un grand moment pour
vous.
Après 17h, restez bien avec nous, on passera à l'actu de ce 19 février à la moulinette de notre mauvaise foi. Et puis le cauchemar de Manon qui restera néanmoins avec nous puisqu'on évoquera un film intitulé « Un été à la ferme ».
Mais quel enfer.
Mais c'est un très beau film Manon. Mais d'abord, zoom donc sur Cuba. Déjà, Alberto Guadalupe Miranda, est-ce que pour vous le régime castriste est sur le point de tomber?
Alors, ça peut arriver à n'importe quel moment. Est-ce que c'est lié à l'état actuel des choses? Ça fait partie des paramètres, mais c'est une longue chute.
C'est une longue chute qui peut
prendre du
temps.
Il
peut y avoir un dénouement à tout moment. C'est-à-dire que c'est pas forcément la pression que Trump met en ce moment.
C'est un paramètre parmi d'autres, mais c'est un pays qui est en chute depuis au moins 30-40 ans.
Hier, le ministre cubain des Affaires étrangères s'est rendu à Moscou. Vladimir Poutine lui a confirmé son soutien face aux sanctions américaines. Est-ce que tant que la Russie soutiendra Cuba, le régime se maintiendra finalement?
Non, parce que c'est un soutien de parole. C'est un soutien diplomatique, mais qui reste très poli.
Il n'y a pas d'aide financière, il n'y a pas de... comme au bon vieux temps du...
Alors, clairement pas au bon vieux temps. Enfin, on n'est jamais revenu au temps de l'Union soviétique. Et dans tous les cas, non, aujourd'hui, c'est avant tout des paroles, quoi.
C'est quand même fou qu'un truc qui s'appelle la baie des cochons, il n'y ait pas de cochons, avait déclaré Cyril Lacarrière en cour martiale. Depuis l'échec du débarquement de la baie des cochons en 61, Cyril est resté mitigé sur son expérience cubaine, dont il garde néanmoins le souvenir ému de quelques cafés admirablement torréfiés et de ces fameuses voitures hors d'âge qui décorent les rues de la Havane. Jamais vu de caisse aussi vieille, à part la Modus de Marie Debreuer, nous disait Cyril en conférence de rédaction. Cyril, il est temps de nous raconter Cuba, d'où ça sort.
Imaginez la plus grande île des Caraïbes, son surnom la Perle des Antilles. Pendant 400 ans, elle a été le joyau de la couronne espagnole et une plaque tournante pour le commerce de sucre et d'esclaves. Quand on pense à Cuba, on pense à Fidel Castro et au Che, la révolution de 1959, mais la vraie naissance de Cuba remonte à 1898. On la doit au poète José Martí. Dans les années 1880, alors que toute l'Amérique latine est déjà indépendante, Cuba est encore espagnole. Mais Martí, qui vit à New York, lève des fonds, organise la guerre, il veut libérer Cuba de l'Espagne, tout en craignant que les Américains ne viennent s'installer à la place.
Mais d'ailleurs, un très bon film sort cette semaine sur lui, Martí suprême, si je ne m'abuse.
Poser la question.
C'est pas le même.
Et c'est un peu. Oh, j'ai confondu. Et c'est un peu ce qui va se passer d'ailleurs, Cyril. Ah oui, la question était excellente.
1898, les rebelles cubains prennent le dessus sur les colons espagnols. L'indépendance n'est plus très loin quand le 15 février, dans le port de la Havane, un cuirassé américain, le USS Maine, explose mystérieusement. Les États-Unis accusent l'Espagne et c'est la guerre. L'armée américaine débarque sur l'île et ne fait qu'une bouchée des ancêtres de Rafael Nadal. C'est à Paris que se signe le traité de paix, mais sans les Cubains qui se battent depuis 30 ans dans la jungle. En fait, l'Espagne donne les clés de Cuba aux Américains. Arrive en 1901 l'amendement Platt. Je les résume. Ce sont les Américains qui disent aux Cubains que, ok, ils sont indépendants, mais que les États-Unis peuvent intervenir militairement sur l'île quand ils le veulent. Ah, et aussi qu'ils gardent des terres pour des bases navales, par exemple celle de Guantanamo. Et c'est comme ça que Cuba naît en 1902 comme une république, mais aux mains des Américains. S'en suivra, 57 ans plus tard, la révolution cubaine. Fidel Castro, le Che, les idéaux, la répression intérieure, extérieure, un pays laissé à l'abandon, et c'est le début de notre histoire.
Merci Cyril. Alberto Guadalupe Miranda, c'est important de faire un rapide retour historique sur la situation de Cuba. D'abord espagnol, puis en proie à des luttes pour son indépendance. Le problème, la malédiction de Cuba, c'est qu'elle est à 145 km des côtes américaines. L'Amérique ne peut pas se désintéresser de Cuba. C'est forcément stratégique pour eux.
Alors clairement, oui, on est un peu le troisième pays en termes de voisins. On a le Canada, évidemment, le Mexique, avec qui il y a eu une guerre. Le Canada, d'ailleurs, il y a eu une guerre aussi en 1812. Nous, on est le troisième, quoi. Donc, on parle de fatalité géographique à Cuba. c'est une réalité. Les Américains, eux, dès 1823, John Quincy Adams, lui, parlait de fruits mûrs qui, quand ils tomberaient, par la propre gravité, comme il y a de la gravité en physique, il y a aussi de la gravité en politique, ouais. Et le fruit mûr cubain devait nécessairement tomber du côté de l'arbre états-unien. Et c'est vrai que tout le 19e siècle cubain est traversé par ça, quoi. Il y a eu les premiers mouvements d'indépendance, un peu dans la même logique que celle du Texas, par exemple. C'est créer une république qui viendra se joindre à l'Union américaine.
Alors, pour ceux qui ont oublié leur cours d'histoire, c'est en 59 que Fidel Castro renverse la dictature qui était en place à Cuba. À cette époque-là, Fidel Castro, il représentait l'espoir du peuple cubain. Aujourd'hui, on le regarde en sépia, c'est une vieille histoire, mais quand il arrive, c'est un espoir.
Alors, ça fait partie un petit peu des clichés. On parlait de clichés depuis tout à l'heure, et c'est vrai que réduire l'esprit de révolte des Cubains à la révolution de 59, c'est cacher, en effet, toutes les guerres d'indépendance. Cuba, c'est 30 ans de guerre d'indépendance, 1868-1898. Et derrière, même après l'indépendance, il y a eu un premier soulèvement en 1906, un deuxième soulèvement en 1917. Il y a eu une révolution, déjà, et nous, on parle de révolution de 1933, quand toute l'Europe tombait dans le fascisme. Bah, nous, notre fasciste local, on l'a dégagé. Et donc, du coup, c'est la fin, d'ailleurs, de l'amendement Platt, dont on parlait juste avant. Il se finit en 1934, avec un nouvel accord qui vient remplacer tout ça. Donc, 59, c'est une nouvelle étape. En 40, pareil, quand la France, elle tombait sous le joug des nazis, à Cuba, on a adopté une constitution où il y avait les congés payés, les congés de maternité, le vote des femmes, l'abolition de la peine de mort, où il a fallu attendre les années 80 en France. Cuba, c'est 1940.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Les jours du régime communiste sont-ils comptés à La Havane? Zoom sur Cuba cet après-midi dans Zoom Zoom Zen avec un franco-cubain, Alberto Guadalupe Miranda, membre du conseil d'administration de l'association France pour la démocratie à Cuba. Alberto, je le disais, vous avez encore de la famille sur place à Cuba. À quoi ressemble leur quotidien aujourd'hui en 2026?
Alors, c'est très difficile aujourd'hui, et là je parle au-delà de ma famille, une bonne partie du quotidien des Cubains se résume à faire la queue. Faire la queue pour manger, queue pour essayer de trouver du pétrole. On a des prix qui ont explosé et qui n'ont rien à voir avec la rémunération des gens. Nous, ça fait partie des choses où depuis la FDC, donc l'association ou des Frente, qui est une coalition un peu plus large, on essaye justement de faire comprendre aux Cubains que il faut trouver la manière de pouvoir réfléchir au pays de demain, et c'est très très difficile.
Ça peut pas durer comme ça, je vous entends.
Ça ne peut pas durer comme ça.
Le fait que vous soyez dans cette association, ça rend difficile le fait de rentrer à Cuba, d'y aller?
Moi, je suis pas retourné depuis 2017.
Ok.
Avant 2017, j'y étais pas allé pendant 13 ans parce que pour des raisons politiques aussi. Mes parents s'étaient aussi opposés à leur manière au régime et pendant 13 ans.
Qui habitent là-bas encore, vos parents?
Non, ils sont en France.
Ils sont en France. Ouais. Et donc là, vous y êtes 2017?
Depuis 2017, enfin, moi, depuis 2021, suite aux manifestations de 2021 à Cuba en juillet, nous, en France, on a créé cette association avec d'autres Cubains et des Français aussi. Forcément, oui, je sais que ça serait dangereux
d'y aller.
Bien sûr.
Oui. Vous parliez de files d'attente pour se nourrir, de files d'attente pour avoir du pétrole. Comment est l'ambiance entre les gens? Est-ce qu'il y a des tensions ou plutôt de la solidarité qui s'est installée dans ce moment-là?
Alors, Cuba était traditionnellement un pays où les liens sociaux entre voisins, etc., étaient très très importants. Moi, j'ai vécu les années 90, qu'on a appelé période spéciale. Mmh. C'est une période spéciale qui dure encore d'une certaine manière. On n'est jamais vraiment sorti, en fait. Et ce qui nous a permis de sortir de ça, ça a été justement cette solidarité-là. Malheureusement, avec la période spéciale est arrivée aussi la dollarisation de l'économie, et on a commencé à voir au fur et à mesure non seulement une différence entre les castes de pouvoir qui avaient toujours été privilégiées, il y avait des privilèges parmi cette caste là, mais qui étaient moins visibles. Pendant les années 90, avec la dollarisation, on avait aussi ces gens qui commençaient à avoir accès aux devises étrangères, mmh. et qui, petit à petit, avaient des choses que les autres ne pouvaient pas avoir. Et ça empirait pendant 40 ans.
Explosion des inégalités visibles aussi. Donc, il y a des millionnaires à Cuba?
Alors, je saurais pas vous dire. C'est très très difficile d'avoir des vraies statistiques sur Cuba, parce que ça fait partie du flou qu'entretient le gouvernement. Par contre, oui, on voit des choses assez extraordinaires. On voit des Tesla, par exemple, des fois.
Des Tesla à Cuba. Ah oui. Alors qu'il y a plein de coupures d'électricité.
Absolument.
Pas pour tout le monde, visiblement.
Absolument. Il y a ceux qui ont des panneaux solaires et ceux qui n'en ont pas. Il y a ceux qui ont aussi accès à la nourriture, parce qu'il y a de la nourriture, mais par contre, aujourd'hui, vous avez des dollars, vous pouvez acheter très cher cette nourriture, vous n'avez pas de dollars, vous êtes dans la misère.
Et pendant très longtemps, on a vanté le système de santé cubain, même dans l'oncologie, dans des disciplines vraiment de pointe. Qu'en est-il aujourd'hui? Ce système de santé cubain, il fonctionne toujours? Il est toujours à la pointe ou plus du tout?
Alors, on a des très très bons médecins cubains, je ne vous dirai pas le contraire. Mmh. C'est vrai qu'il y avait un accès universel à la santé. Par contre, l'État cubain s'est servi des médecins cubains pour les envoyer en Martinique. C'est arrivé pendant le Covid, en Italie, au Venezuela, etc., etc. Ça représentait la plus grande exportation économiquement de Cuba. Une exportation qui passait d'ailleurs par l'exploitation de ces médecins. C'est-à-dire que l'État cubain gardait jusqu'à 80-95% du salaire qui leur était alloué. C'est l'État qui le récupérait, et ça faisait jusqu'à 11 milliards d'euros d'entrée de devises pour le pays. De ces 11 milliards d'euros, si je prends l'investissement de 2024 dans les hôpitaux cubains, c'est 82 millions. Donc on a des hôpitaux qui s'effondrent. Alors que on a cette manne qui aurait pu être utilisée pour ça.
Pour lui, ça a été extrêmement difficile d'aller discuter de Cuba dans la rue. Il déteste les communistes. Son tonton milliardaire lui a toujours dit de s'en méfier, comme de la peste. Heureusement, il a une éthique, une devise même.
S'il y a de la bonne radio à faire, on sera là.
On est là.
Alors, il y est allé.
Quentin,
comment les passants que vous avez croisés voient-ils Cuba?
Alors, on va leur demander. Ma première rencontre porte un tarbouche. C'est un chapeau rouge à la forme cylindrique sans visière. Il porte également un long manteau au bouton doré qui lui donne un flow, un style, une certaine aura dans la rue.
Critique mode, maintenant.
Un tarbouche.
Et là, c'est la Fashion Week.
Un tarbouche.
Un tarbouche, oui.
Je vais regarder ce que c'est. Ok.
Regardez ce que c'est. Première impression sur...
Cuba. Che Guevara. Castro.
Vous connaissez?
Oui, je suis allé. Je suis fumeur de cigares, en fait. Ils ont en fait la réputation d'être les meilleurs, mais ils ne sont pas, à mon avis, les meilleurs.
Alors, il me raconte une anecdote rigolote sur la fabrication des cigares de la marque Romeo y Julieta.
Par exemple, en fait, vous savez que Roméo et Juliette, en fait, dans l'atelier de Roméo et Juliette, il y a un mec qui lit en fait le roman aux personnes qui fabriquent toute la journée, l'histoire de Roméo et Juliette pendant qu'ils font leur cigare. Par exemple.
C'est poétique.
C'est très poétique. Pardon.
Alors, c'est poétique, mais faut arrêter de fumer.
Vous me dites que c'était. C'est une particularité des fabriques de cigares cubaines. Le lecteur. Ça vient même de l'histoire syndicale de Cuba, en fait.
Il y a quelqu'un qui lit pendant les...
Absolument. Dans toutes les fabriques.
Mais pas pour donner un goût au cigare, pour éduquer
les
bébés.
Alors, ça peut être un roman, ça peut être aussi les nouvelles du jour, le journal.
Ah oui.
C'est très varié, ils ont tout un programme, mais c'est particulièrement cubain. Et c'est les travailleurs du monde du cigare, ça date du 19e siècle, qui avaient mis en place ça.
Ma deuxième rencontre raconte avec un chariot contenant des dépliants qu'elle distribue.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Erika.
Qu'est-ce que vous arrêtez aussi les gens dans la rue là ?
Oui, j'arrête les gens dans la rue pour les encourager à méditer, parce que je crois au fait que la méditation ça peut vraiment aider à relâcher tout le stress qu'on a au quotidien.
Vous méditez vous-même ?
Oui, je médite moi-même de manière très régulière et puis je relâche mes pensées.
Je vous fais lire un mot de l'actualité, d'accord ?
Allons-y.
Vous me le lisez à haute voix, vous me dites ce que vous en pensez.
OK. Cuba.
Est-ce que vous connaissez Cuba ?
Oui, j'ai été en vacances là-bas. La plage, la danse, la nourriture, la salsa. On a aussi toute une partie embargo, fermeture, coupure avec le monde, bloc Est et Ouest.
Je lui demande justement si on sent de l'oppression sur place quand on y est.
Oui, j'ai senti qu'il y avait les touristes et les non-touristes. Il y avait vraiment une séparation entre les deux. Une monnaie pour les touristes, une monnaie pour les non-touristes. Un silence, une ambiance un peu, un silence pesant, je dirais. Collectif. Voilà.
Il y a le tourisme, ce qu'on vend aux gens.
Oui.
Et la vraie vie à côté, quoi.
Exactement.
Elle me dit que nos sujets sont lourds dans Zoom Zoom Zen, comme l'actualité, pas facile facile, et Erika me recommande et recommande à toute l'équipe de méditer, évidemment. Audrey, jeune juriste qui, à la trentaine, découvre...
Cuba.
Pourquoi on parle de Cuba ?
Il y a un embargo américain, enfin états-unien. Bah, j'en pense que c'est le résultat de l'impérialisme américain, encore une fois, qui utilise sa puissance économique pour pouvoir écarter des régimes qui fonctionnent normalement sans son intervention et puis les faire chuter pour justifier le fait que le communisme ne fonctionnerait pas dans les faits. Voilà, c'est ce que je crois.
Alors, je lui demande si on est plus tolérant avec le régime cubain grâce à l'idée qu'on s'en fait, le côté touristique, on l'entend, alors qu'on s'indigne, par exemple, plus pour d'autres régimes autoritaires ailleurs dans le monde.
Bah, en fait, moi, je pense que de base, ça ne regarde pas. Enfin, il n'y a pas besoin d'intervenir, vous voyez. Si jamais les populations cubaines sentent que c'est un régime autoritaire ou en tout cas que leurs libertés sont bafouées dans l'exercice de cette manière du communisme, je pense que les populations sont capables de se déterminer elles-mêmes.
Vous dénoncez un peu l'ingérence.
C'est ça, exactement, oui, tout à fait. Je ne suis pas très, très pointue sur la question de Cuba.
Mais c'est votre ressenti.
Mais c'est ce que je ressens, en tout cas, ouais.
Il sert à ça, ce micro. Ben oui, Audrey, il sert à ça. À qui je demande quand même, avant de partir, Audrey, ce qu'elle aime dans Cuba ?
J'adore la musique.
Cubaine ?
Ouais. Et puis,
vous avez un groupe à nous partager ou un truc ?
Social Club, un peu comme tout le monde. Chang Chang.
Alors, oui. C'est Chan Chan.
C'est Chan Chan plutôt, oui.
Chang Chang étant certainement un autre groupe, mais pas cubain. Ma dernière rencontre, c'est Rolly. Casquette vissée sur la tête, lunettes de soleil, long menton sombre, une silhouette nette, un style affirmé. Il découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Cuba. Ah, j'en sais rien.
Ah, vous l'avez pas eu passer ?
Je l'ai pas c'est eu passer. Donald Trump a-t-il intérêt à faire chuter le régime cubain ? Alors, je pense que Cuba est dans une situation extrêmement compliquée depuis des années, des décennies même. Mais après, est-ce que Donald Trump va étrangler Cuba comme c'est annoncé ? Je pense fortement que oui. Parce qu'il n'a aucune limite.
Je reviens avec lui sur l'idée qu'on se fait de Cuba. Est-ce qu'on a une vision tronquée par l'image touristique, les cigares, le décor de la Havane, des Caraïbes ?
Alors, est-ce qu'on est tronqué ? Je pense que oui. Je pense qu'on est tronqué parce qu'on voit Cuba comme une destination. On ne vit pas la vie des Cubains. Vous voyez ? Moi, je crois fermement en la capacité des peuples à s'autodéterminer. Et c'est pour ça que je suis contre le fait que les Américains... et la main mise, que ce soit sur Cuba ou le Venezuela.
Et peut-être que tout est là. Cuba, on le fume, on le fantasme, on le photographie, mais on oublie parfois de l'écouter simplement. Cuba, on le regarde de loin, on décide pour lui, on commande sa vie comme si on la connaissait mieux que ceux qui la vivent sur place. À Washington, Donald Trump durcit, sanctionne, explique ce qui serait bon pour un peuple qu'il ne côtoie absolument pas. On voit Cuba comme une destination, rarement comme un pays habité.
Merci Quentin. C'est pas tous les jours que Quentin dit quelque chose d'intelligent à ce micro, c'est pourquoi je vais rebondir sur cette dernière phrase, Alberto Guadalupe Miranda. Est-ce qu'il y a un regard occidental sur Cuba qui voit effectivement plus ce territoire comme une destination que comme un pays, un régime autoritaire ?
Oui, oui, oui. Alors, et j'ai envie de dire, c'est normal aussi. Enfin, y a beaucoup de gens, même si ces dernières années, depuis le Covid, le tourisme s'est effondré à Cuba, ça fait partie des choses pour lesquelles on pense au pays. Et c'est très
ça
bien.
Ça fait partie des charmes du pays, ils existent.
Après, c'est vrai que la vie des Cubains, au-delà de ces espaces touristiques, est en effet très différente.
Erika disait, il y a les touristes d'un côté,
et la vraie vie de l'autre.
Alors, ça a été très, 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 très vrai pendant les années, encore les années 90 et même au début des années 2000. Depuis, ça a quand même changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du Airbnb, par exemple.
Oui, on peut aller chez l'habitant.
On peut aller. Ouais. Pendant très longtemps, ça a été très, très, très interdit.
Ouais, ouais.
Aujourd'hui, non. Au contraire.
Il y a beaucoup d'hôtels aussi.
Alors, c'est une excellente question, les hôtels. Alors, les hôtels, il faut le savoir, tous les hôtels de Cuba sont construits en partie par des entreprises cubaines liées à l'armée et donc liées très directement à la famille de Raúl Castro.
Ouais.
Ensuite, certainement à chaque fois un partenaire étranger. Donc du coup, c'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui me demande, je leur dis toujours allez chez l'habitant.
Oui, c'est
si
mieux,
vous voulez
que
connaître
hôtels,
Cuba,
c'est,
ça se passe c'est, chez l'habitant.
C'est enrichir le régime.
Absolument. Et clairement, aujourd'hui, c'est au-delà du régime, c'est vraiment la famille Castro.
La famille elle-même. Mmh.
La grande partie des hôtels sont contrôlés par une entreprise qui s'appelle GAESA, groupe d'action d'entreprise de l'armée, ESA, donc société anonyme. Donc demain, quand le régime potentiellement changera, etc., est-ce qu'on pourra récupérer l'argent de cette société anonyme?
Ça
fait partie des enjeux.
Ah oui, des gros enjeux, j'imagine. Oui.
Les gens dans la rue sont quand même un peu choqués par les manières de faire. Rolly évoquait le Venezuela, demain Cuba peut-être. Est-ce que pour vous c'est de l'ingérence, c'est du néocolonialisme? Comment vous voulez le définir?
Alors là, pour le coup, depuis l'association France pour la démocratie à Cuba ou des Frente, on est très très clair là-dessus. Pour nous, la solution pour Cuba doit être trouvée par les Cubains. Aujourd'hui, peut-être le principal problème, c'est que le gouvernement cubain préfère parler. Même si aujourd'hui il dénie, il y a une dénégation d'éventuels pourparlers. Il préfère parler au gouvernement américain plutôt qu'avec la société cubaine. Qui est très diverse, qui est capable de porter un vrai projet de pays aujourd'hui. Et malheureusement, c'est l'un des points d'achoppement, c'est que le gouvernement cubain ne veut pas parler à sa société civile.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
C'est un livre que chaque voyageur sérieux devrait avoir sur sa table de chevet, voire connaître par cœur. Adios les Bibaros. Le carnet de voyage de Pierre Courade, qui lui a valu le surnom de Christophe Colomb de Bigorre.
C'est un vrai livre.
Le chapitre sur Cuba est particulièrement riche en anecdotes. Les paysages y sont décrits comme sublimes et les gens comme, je cite, aussi chaleureux qu'aux cornichons. Pour ce quiz, je vais donc vous lire les bonnes feuilles de Adios les Bibaros consacrées au Cuba secret de Pierre Courade, où il n'est jamais allé mais qu'il connaît quand même sur le bout des doigts, comme tous ces sujets. Jouons au Zoom Zoom Test.
Il n'y est pas allé, mais...
24 décembre 2019. Cher journal, nous sommes bien arrivés à la Havane, même si la classe business d'Air France n'est plus aussi confortable qu'à l'époque du Concorde. En tout cas, je suis impatient de voir comment l'autochtone biberonné au communisme va célébrer la nativité de l'enfant Jésus après 30 ans à faire l'impasse sur cette fête si chère à mon cœur. Oui, Pierre n'est pas que chiant, il est aussi chrétien. Une foi qui ne le quitte jamais, même sur Grindr, où son pseudo est Grossière65, vous le savez.
Et
si...
Oh non !
S'il est si inquiet en ce 24 décembre 2019, c'est qu'effectivement les Cubains n'ont pas fêté Noël de 1969 à 1997.
On a des stagiaires de 3e en régie,
selon
ça
vous,
me choque.
Pourquoi ? Concentrez-vous sur la question, elle est importante. Pourquoi ils n'ont pas fêté Noël ? Parce que, c'est bien connu, les rouges sont des bouffeurs de curés ? Par souci du bien-être animal, les rennes souffrant trop de la chaleur ? Ou parce que la récolte de la canne à sucre, c'est quand même plus important que la tradition capitaliste ?
C'est
A et C ?
C'est une bonne réponse de Manon Mariani, essentiellement.
Ah bon ? Attendez, ça va.
Réponse C. 1968.
Il est pas d'accord, l'invité.
Ah, alors le point va à Quentin.
Non, mais vous êtes sérieux ?
Je suis désolé, il y a une autorité supérieure dans cette émission,
hein.
C'est l'invité.
Quand même.
Réponse C.
C'est
1968, dernier Noël à Cuba. Fidel Castro suspend Noël pour ne pas interrompre la récolte de canne à sucre qui était partie pour battre son record cette année-là. Pierre peut être soulagé, Fidel est revenu à la raison lors de la visite de Jean-Paul II en 97. Mais revenons à la plume de Pierre, elle est si bien taillée. 26 décembre,
oh là là là.
Cuba l'envoûtante,
stagiaire de 3e.
Cuba la surprenante, Cuba la déroutante. Je pensais que j'allais voir Castro partout et sur quoi je tombe ? Une statue de John Lennon gardée par un vigile. Un instant fugace, je me suis cru à Liverpool, mais sans le brouillard. Encore un moment de grâce pour Pierre, mais pour vous, cette question. Pourquoi l'État cubain a-t-il donc affecté un garde à la statue de John Lennon ? Parce que les Cubains vouent un culte à John Lennon qui a soutenu financièrement le régime castriste ? Pour ne pas qu'on lui pique ses lunettes ? Ou parce que chaque statue dispose de son garde personnel, c'est la tradition à Cuba.
Ah, ah, ah.
Lennon a financé le castrisme.
C'est
une information importante de Manon Mariani.
Non, le c'est alors c'est.
C'est une double mauvaise réponse de Kant. Personne à la bonne.
C'était
pour qu'on ne lui pique pas ses lunettes. Le caractère improbable de cette statue à Cuba, dont les lunettes étaient volées en permanence, Juan González est devenu gardien de lunettes qu'il place sur la statue quand les touristes viennent la photographier. Et ce n'est pas à Lourdes que ça arriverait, conclut notre Magellan du 11e. Mais poursuivons la lecture.
Magellan.
28 décembre, le Cuba secret, c'est celui de la débrouille. Tout le monde connaît les talents en mécanique des Cubains qui font rouler leurs voitures russes depuis un demi-siècle, mais c'est fou ce qu'ils savent faire avec une capote. Emoji clin d'œil, emoji aubergine. Oui, c'est fou, Pierre, car avec les préservatifs, les Cubains font du vin, font du sexe ou font sécher les feuilles de tabac.
A. B et C.
B et C pour Manon.
A.
Je vous donne l'opportunité d'une autre
réponse. Les trois.
A et B.
A et C.
Oh, B, oui, oh, oui, oh, c'était tout juste dans les temps. Sacré Cubain. Sacré Cubain, avait écrit Pierre en marge d'une photo où on le voit tenir d'une main un préservatif, de l'autre une bouteille de vin. Oui, à Cuba, on n'a pas de raisin, mais on a des idées. Là-bas, un viticulteur contrôle la fermentation de son vin de fruits, puisqu'il n'y a pas de raisin, avec un préservatif qui est gonflé par le dioxyde de carbone. Lorsque le préservatif redevient mou, c'est que la fermentation est terminée. Inconvénient, un léger goût de latex. Qui visiblement ne dérange pas Manon.
Mais Mathieu,
vous confirmez comment ça
Arrêtez
avec ce son là, c'est horrible.
C'est juste quelqu'un qui boit, Manon.
Quelqu'un qui boit
du vin, c'est des choses qui.
J'ai bien compris.
Vous connaissez cette anecdote
Alors, pas pour le vin, mais par contre, pendant les années 90, on fabriquait du fromage pour les pizzas. Dans des préservatifs, ça s'est arrivé ça aussi.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout arrive à Cuba.
J'aime pas le fromage, mais voilà.
Mais je vous rassure, depuis très longtemps maintenant, il n'y a plus de préservatifs à Cuba. C'est vrai.
Ça ne nous rassure pas.
Exactement.
C'est inquiétant. En revanche, poursuit Pierre Courat dans son livre Adios les Bibaros, je vous déconseille de demander de la papaya. Le Cubain est semble-t-il très susceptible sur la papaye. Et c'est vrai qu'à Cuba, il vaut mieux éviter de demander à quelqu'un si vous pouvez goûter sa papaya. Pourquoi? Parce que la papaye est un fruit sacré. Sacré, et dans la Santeria, la croyance locale. Parce que la papaya, c'est le mot cubain qui désigne le vagin. Ou parce qu'il n'y a plus de papaye à Cuba depuis que les Espagnols ont volé les papayers à la fin du 19e. Et ça, les Cubains l'ont toujours en travers de la gorge.
B.
A.
Manon, pensez que la papaya est un mot
désigné
en jargon.
Mignon.
Mignon.
Bah, papaya, oui.
C'est une bonne réponse de Manon Marielle. Eh oui. Pierre l'avait découvert à ses dépens en flattant une commerçante sur sa papaya qui lui paraissait, je cite, bien fraîche. Le mot est un faux ami, puisqu'à Cuba, la papaya est le sexe féminin, évidemment. Quand on veut une vraie papaya, il vaut mieux demander, qu'est-ce qu'on dit, une fruta bomba?
Una fruta bomba.
Una fruta bomba. Vous seriez mieux reçu que Pierre, qui avait passé un sale quart d'heure. Défaite du bon goût, derrota del buen gusto y victoria de Quentin.
Oh, si vous voulez avoir l'image, bah en fait, il suffit de couper une papaye transversalement.
Ah, d'accord.
Ça vous donnera... Et vous regardez de face.
Ah, effectivement, je ne verrai plus jamais une papaye de la même manière. Merci pour cette précision.
On regardera sur Google Images.
Le régime castriste va-t-il chuter à Cuba? C'est la question qu'on se pose cet après-midi avec le franco-cubain membre du conseil d'administration de l'association France pour la démocratie à Cuba, Alberto Guadalupe Miranda. Je parlais tout à l'heure de régime communiste. Vous m'avez dit, hors antenne, il faut peut-être interroger ce mot. Est-ce que le régime cubain est aujourd'hui encore communiste? Qu'est-ce qu'il a de communiste?
Eh bien, oui, c'est vrai qu'il y a des communismes. Déjà, il faudrait voir est-ce qu'il l'a été un jour. Ça, c'est la première question. Le pouvoir à Cuba était très personnel, très centralisé. Il y a eu un projet social, en effet, les premières années de la Révolution, et c'est d'ailleurs ce qui a conduit au soutien d'une bonne partie de la population pendant très longtemps. Par contre, c'est clair que la dollarisation de l'économie, les inégalités qui augmentent au fur et à mesure, aujourd'hui, on est dans une sorte de capitalisme d'État qui est même pas à la chinoise, parce que à la limite il y a quand même un modèle économique qui a pu réussir en Chine. À Cuba, tout est contrôlé.
C'est la Chine sans succès.
C'est même au-delà de ça, il n'y a pas de liberté économique, quelle qu'elle soit, en dehors de la famille Castro. Dès que quelqu'un commence à réussir un peu trop,
pas de liberté d'entreprendre, rien de tout ça.
Alors, il y a aujourd'hui des petites et moyennes entreprises qui ont, en fait, on n'a pas de segments de l'économie qui sont interdits, ce qui est le cas en France. Là-bas, on a des segments autorisés. Donc, il y a une liste.
À l'envers.
Ça, on peut faire.
Et Raoul Castro, il fait quoi aujourd'hui?
Alors, Raoul Castro, il n'a pas de charge officielle, mais c'est lui et sa famille qui gardent les ficelles, en fait, du pouvoir. Le président de la République actuelle, nous, on l'appelle l'homme mis au doigt.
Ah oui, d'accord.
Il a été désigné.
Ok.
Mais il n'a pas de réel pouvoir.
Mardi, Donald Trump affirmait que Cuba était une nation en faillite et demande à la Havane de conclure un accord avec les États-Unis. Quel genre d'accord pourrait conclure le régime cubain avec les Américains?
Alors, il faut savoir que malgré tous les discours et l'idéologie, etc., le gouvernement cubain et américain n'ont jamais cessé de parler. C'est juste que il y avait des thématiques très particulières. Immigration, sécurité, lutte contre le trafic de drogue, hein, ça existe. Ensemble, je parle. Il y a des pourparlers aussi par rapport à la baie de Guantanamo. Donc ça a toujours existé. Aujourd'hui, le vrai sujet... Il faut que Cuba et les États-Unis parlent. Je veux dire, on est voisins, c'est comme si la France ne parlait pas avec l'Allemagne. Souvent, historiquement, ça s'est pas très bien passé. Donc il faut parler, mais néanmoins, il faut que la société civile cubaine ait une place à la table des négociations.
Dernière question, est-ce que il y a un mouvement de résistance extérieure qui s'est créé, qui serait prêt à prendre la relève à Cuba? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à gouverner Cuba différemment aujourd'hui, concrètement?
Bien sûr, c'est ce que je disais, la société civile cubaine. Aujourd'hui, on a des associations pour la défense des droits des animaux, on a des associations féministes, et tout ce monde-là se retrouve au sein de Defrente. On a un conseil pour la transition vers la démocratie. C'est des gens qui veulent une transformation démocratique à travers les lois existantes. Nous, on promeut, par exemple, le fait d'un changement de la loi électorale pour pouvoir commencer un processus constitutionnel qui est établi dans le droit, en fait. L'idée, c'est de faire cette transition pour reconstruire le pays. Il y aura un temps pour tout. Là, il faut reconstruire et la justice viendra après.
Et le jour venu, vous serez candidat à l'élection présidentielle?
Ah non, non.
Là, ah non, pas vous.
Je suis très bien là où je suis et au contraire, j'essaye de contribuer déjà à ma manière et à ma place.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure de découvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Un symbole de Cuba, il est long, marron et il ne sent pas très bon. Je vous parle du cigare, car un cigare cubain, ce n'est pas juste du tabac roulé, c'est un symbole national.
C'est vraiment très très joli,
ça vous fait rire, je sais. Un produit de luxe, un savoir-faire transmis depuis des siècles. À Cuba, le tabac est cultivé principalement dans la région de la vallée de Viñales, un territoire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, réputé pour ses sols rouges, son humidité, son microclimat parfait pour faire pousser ce que beaucoup de personnes considèrent comme le meilleur tabac du monde. Pour la conception de ces cigares, tout commence dans les champs. Les feuilles de tabac sont récoltées une à une, puis suspendues dans de grandes granges en bois pour sécher naturellement pendant plusieurs semaines. Ensuite vient la fermentation. Les feuilles sont empilées, elles chauffent lentement, perdent leur amertume et développent leurs arômes. Puis, chaque feuille est ensuite triée à la main selon sa taille, sa souplesse, sa couleur et son usage futur. Dans les manufactures, il y a ceux qu'on appelle les torcedores. J'ai essayé de le faire avec l'accent, pas du tout. Ce sont eux qui assemblent ces feuilles sans machine. Ils humidifient légèrement le tabac, roulent, pressent, coupent, puis placent chaque cigare dans un moule en bois pour lui donner sa forme. Un bon torcedor peut fabriquer entre 100 et 200 cigares par jour à la main. Parmi les marques les plus mythiques, je citerai Cohiba, Monte Cristo ou encore Partagas. Certaines boîtes peuvent être vendues plusieurs milliers d'euros. À l'origine, les cigares cubains n'étaient pas pensés pour le commerce international. Ils étaient réservés à l'élite politique. Dans les années 60, une marque s'est même créée spécialement pour Fidel Castro, Cohiba. Ces cigares personnels roulés à la main sont devenus ensuite un produit d'exportation de prestige. Mais derrière le glamour, toute la filière du cigare cubain est contrôlée par l'État via Habanos, l'entreprise publique qui supervise toutes les grandes marques. Les torcedores gagnent quelques dizaines de dollars par mois, très loin des prix pratiqués à l'étranger où certains cigares valent des centaines d'euros. Le cigare est devenu un pilier économique pour Cuba, mais qui crée un énorme contraste entre l'objet de luxe mondial et la réalité sociale de l'île.
Merci Manon. On rappelle votre définition du cigare.
Il est long, marron et il ne sent pas très bon.
Ça va vous suivre pendant quelques émissions.
C'est gratuit, c'était pour vous.
Merci. Alberto Guadalupe Mernal, le cigare, c'est un symbole de fierté nationale, c'est quoi?
Alors, c'est drôle parce que je dois en grande partie mon arrivée en France au cigare. Ma mère travaillait dans cette entreprise à Banos pendant très longtemps. Mais en l'occurrence, ça reste même l'indépendance du pays, en grande partie, elle a été financée par des torcedores qui étaient aux États-Unis.
Hein.
C'est normal en même temps.
Oui, c'est vrai.
Heureusement d'ailleurs. mais c'est vrai que ces rouleurs de cigares ont financé avec leur maigre salaire l'indépendance du pays. Donc il y a une place particulière, oui.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Si Pierre Courade n'a jamais oublié Cuba, un séjour enchanteur qu'il redit chaque soir quand il se déhanche au tango sur Cuba, Quiero Bailar la Salsa, la réciproque est vraie, Cuba n'a pas oublié Pierre Courade, le seul touriste à avoir laissé 2 pesos cubains de pourboire sur une addition de $120 américains, El Radin Maximo, et le surnom qu'on lui donna à la Havane.
Ça lui ressemble.
Pierre, vous qui avez tant marqué les Cubains, résumez-nous tout ce qu'on s'est dit sur la perle des Caraïbes en une minute chrono.
Ouais, Cuba, le seul pays qui me manque alors que je n'y suis jamais allé, surtout après un mois passé au Cap-Vert, Cuba sans la papaya. Cuba, notre sujet du jour, avec notre invité Alberto Guadalupe Miranda, membre du conseil d'administration de l'association France pour la démocratie à Cuba. Il nous a raconté que le régime de la Havane peut désormais tomber à tout moment, même si la chute du castrisme est très lente. Pour lui, ça fait 30-40 ans que la dictature ne cesse de péricliter, c'est long. Et en attendant, le peuple souffre. Alberto Guadalupe Miranda nous a expliqué que la vie quotidienne des Cubains se résume aujourd'hui à faire la queue. Faire la queue pour manger, faire la queue pour faire son plein d'essence, les prix explosent, les coupures d'électricité se multiplient. Et malgré tout, le régime tient. Même si on parle de Cuba aujourd'hui, c'est surtout parce que le pays est encore une fois dans le viseur de l'administration américaine. Donald Trump espère ainsi faire chuter le régime de la Havane en le privant des ressources pétrolières du Venezuela. En fait, comme nous le racontait notre invité, les États-Unis espèrent depuis le 19e siècle que Cuba tombe dans son escarcelle. Mais pour notre invité, le salut de Cuba ne viendra que de son peuple. Voilà, Cuba que Quentin connaît un peu mieux aujourd'hui grâce à cette émission. Lui qui, pendant notre dernière déloc à Lille, avait chopé une fidèle gastro.
C'était bien de le dire.
C'est dans un silence total.
Déjà, c'est faux, comme tout ce papier, visiblement.
Est-ce que c'était faux? Est-ce que c'était faux? Je me retourne vers notre invité.
Retrouvons nos esprits et notre calme pour terminer cette émission. Aujourd'hui, nous sommes avec Sylvia Freud. Sylvia, on est curieux d'avoir votre avis de psychiatre. Est-ce que Trump est assez fou pour faire à Cuba ce qu'il a fait au Venezuela?
Intéressante cette question, Mathieu Noël. Vous avez une obsession pour Donald Trump, tromper, comme votre père trompait votre mère, au lieu de la traiter comme une reine, la reine du père Noël, Mathieu. Mais vous-même, Mathieu, distribuez-vous des cadeaux toute la journée? N'auriez-vous pas préféré une plus grande carrière comme celle de votre patron, Cyril? Qui l'a, lui, Cyril, la carrière? Vous ne me répondez pas, Mathieu, ce n'est pas grave. Vous pouvez répondre à la chaussette de la confiance, elle garde tout pour elle.
Coucou Mathieu, je suis la chaussette de la confiance et je garde tout pour moi. Comme tes petits nageurs quand tu étais adolescent, tu te rappelles? Tu jouais avec moi pendant des heures.
Comment vous
et
savez
ensuite, tu me cassais sous ton matelas. Mais Mathieu, quand c'est un lit superposé, ça ne sert à rien de me mettre sous le matelas. Tout le monde me voit.
Je sens comme une tension dans le studio, Mathieu. L'émotion sûrement, alors on se détend tous. Mathieu, vos paupières sont lourdes, lourdes, comme les techniques de drague d'un commercial en séminaire d'entreprise.
C'est gentil, Sylvia, mais je ne suis pas sensible à l'hypnose.
C'est mignon, Mathieu. Votre collègue Quentin disait la même chose, et puis il est venu me voir, et après 3 séances, il a surmonté sa timidité. Et aujourd'hui, il vient parler aux gens dans la rue en leur posant des questions sur des mots que personne ne connaît, afin de se sentir supérieur. Et je l'en félicite.
Sylvia, est-ce qu'on peut revenir quand même à Donald Trump?
Toujours cette obsession pour Donald, Mathieu. Pourquoi vous n'aimiez pas Mickey? Enfin, déjà, vous préfériez les canards qui ne portent pas de pantalon. Pourquoi toujours vouloir tout revenir à vous alors que le monde va mal, Mathieu? Dites-le à la chaussette de l'égoïsme.
Bonjour, Mathieu. Je suis la chaussette de l'égoïsme. Oui, Mathieu, j'ai la même voix que la chaussette de la confiance. Parce que moi aussi, je garde tout pour moi. Je suis égoïste. Toi, par contre, tu peux me partager tout ce que tu as sur le cœur. Tes peurs, tes espoirs et ton envie de remplacer Yann Barthès à la tête de Quotidien. Quoi? Ça t'énerve que je dise ça? Tu veux parler à la chaussette de la colère?
Bonjour. Mathieu, je suis la chaussette de la colère. Ne laisse pas la chaussette de l'égoïsme te parler comme ça. Fais-toi respecter, Esh. T'es un bonhomme, Mathieu. T'es plus un petit garçon. La chaussette de l'égoïsme, elle sert à rien. C'est une petite salope. Fais-moi confiante.
Eh, dis-donc, mais ça va pas de me parler comme ça? Et puis la chaussette de la confiance, eh ben, c'est qu'elle qui peut lui parler parce qu'elle a confiance, mais elle peut pas parler parce qu'elle est collée. Alors, pardon, qu'est-ce que je vous disais déjà, Mathieu?
Je ne sais plus, là.
Ah oui, vous me parliez de folie, c'est ça?
Oui.
Vous savez, Mathieu, pour moi, c'est dur de juger, parce que vous le voyez très bien, je suis quelqu'un d'assez équilibré. Mais je vais quand même répondre à votre question, Mathieu. Vous me demandez si Trump est fou. Eh bien, je vous répondrai par une citation célèbre. N'est fou que celui qui pense être sujet à la folie, à ses prémices ou à ses conséquences, Sylvia Freud.
Ça ne veut rien dire.
Ça ne veut rien dire, mais ça fera quand même 85 euros. Je vous laisse régler cela avec la chaussette de l'accueil.
Évidemment. Merci beaucoup, Sylvia. Surtout, merci, Lisa Perrieux. Et je réalise avec effroi, heureusement que j'étais fils unique et que je n'avais pas un lit superposé parce que j'aurais pu commettre la bourde, effectivement. Bien vu. Belle analyse. On vous retrouve, Lisa Perrieux, la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Je rappelle qu'il faut aller vous voir sur scène dans votre spectacle. Enfin, sauf quand il y a une crue de la scène, puisque évidemment, c'est plus compliqué techniquement. Les mercredis à Paris à la Nouvelle Scène et le 3 et 4 avril prochain à Caen. Et Rouen, vous allez à Rouen quand nous on est revenus.
Exactement.
On est désynchronisés. Ah, merci beaucoup Lisa, merci beaucoup Alberto Guadalupe Miranda de nous avoir permis merci de mieux cerner le Cuba actuel. C'est la dernière fois que vous avez eu un proche là-bas. Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Bah écoutez, elle était en train de chercher le moyen de rentrer depuis son boulot jusqu'à la maison.
C'est, oh, wow. Parce qu'il n'y a pas de bus ou pas de...
Bah non, il n'y a pas de bus. C'est, est-ce que le collègue il a
c'est
il
la
a
débrouille,
véhicule
quoi.
C'est la débrouille.
La débrouille quotidienne. Merci d'avoir été avec nous. Zoom Zoom Zen.